Et cette question peut se poser. Les relations entre Israël et les autres grandes puissances mondiales sont-elles au beau fixe? Et donc c'est toute la question que Asley Santoro a posée à Daniel Haber. Voici sa réponse.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel pour une conversation une nouvelle fois. Et Daniel, en ce moment, vous êtes en Israël, vous venez d'arriver. Et c'est peut-être le moment pour nous de parler justement d'Israël et de la situation actuelle dans le pays, à savoir comment les Israéliens perçoivent la situation actuelle mondiale. Et très sincèrement Daniel, est-ce qu'ils ont vraiment le temps de regarder ce qui se passe autour d'eux?
Oui, parce qu'il y a, une sorte d'accalmie. Le Premier ministre a mis la grande affaire, la réforme de la Cour suprême, un peu en pause jusqu'à la fin mai, donc ça donne un peu le temps de respirer. Et donc c'est pour nous le moment de se poser la question, est-ce que les Israéliens ont le temps de s'occuper de ce qui se passe dans le monde? Oui. Vous savez, c'est un peuple très informé, très curieux, et puis il y a beaucoup de commentateurs, il y a beaucoup de chaînes, donc oui, ils sont informés. Alors, si on fait un petit peu le tour d'horizon de ce chaos mondial dont on parle à chaque conversation, du point de vue d'Israël, ce qui compte, c'est au fond le fait qu'Israël, depuis une dizaine d'années, a réussi à avoir une diplomatie qu'on appelait tous azimuts, à avoir des bonnes relations avec tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde, surtout petits au fond en taille, moins de 10 millions d'habitants, qui ont des bonnes relations avec toutes les grandes puissances. Et ça, c'est un des grands atouts finalement d'Israël. Et donc, je vous propose de vérifier si ça reste vrai. Alors évidemment, la grande affaire pour Israël, c'est toujours la relation avec les États-Unis. On a pu avoir l'impression, par quelques petits propos de Biden à propos de la Cour suprême, où il conseillait à son ami Bibi de mettre en pause, ce que finalement Bibi a fait. Donc, c'était ce qu'on appelle un conseil d'amis. Donc ça a été bien bien reçu ici. En fait, on est déjà en pré-campagne électorale présidentielle aux États-Unis. On voit que tous les candidats essayent d'avoir d'abord le vote juif et deuxièmement se préoccupent de leurs relations internationales. Et pour les Américains, quel que soit le camp, Israël c'est un atout stratégique. Il faut bien comprendre que c'est pas les Américains qui aident Israël, ils s'aident mutuellement. Et grâce à Israël, les Américains qui ont fait un pivot d'intérêt vers la Chine, qui ont moins de temps et moins de ressources pour l'Europe. Maintenant, la guerre en Ukraine a changé ça, mais surtout pour le Moyen-Orient, ils ont cet allié stratégique israélien qui les représente sur place. Et alors la conclusion, c'est que l'alliance va bien. Alors, on peut se demander si ça va bien aussi avec la Russie. Et pour l'instant, c'est un petit miracle, mais on voit que les relations avec la Russie restent ouvertes. La preuve, c'est que Israël continue de bombarder copieusement les bases iraniennes en Syrie, qu'elle ne pourrait pas faire si la Russie s'y opposait, donc il ne s'y oppose pas. Donc ça, c'est un signe. Et vis-à-vis de l'Ukraine, Israël a réussi finalement à ne pas livrer de matériel militaire, donc à ne pas faire partie de la guerre, de ne pas être belligérant, d'être loin de tout ça, tout en étant en bon terme avec tout le monde. Donc c'est quand même de ce point de vue-là un exploit, et donc ça, c'est assez rassurant. Alors évidemment, l'incertitude la principale, c'est l'Iran. C'est l'Iran parce que l'Iran pratiquement a poursuivi de telles recherches et de telles avancées sur la bombe que pratiquement ici, on est acquis à l'idée que l'Iran est ce qu'on appelle un pays du seuil. C'est-à-dire qu'il a au fond déjà, s'il le souhaite, il peut avoir la bombe. Donc c'est déjà fait et du coup, l'idée qu'on pourrait avoir un nouvel accord sur le nucléaire iranien, puisque c'est toujours ouvert, Biden continue de dire. Continue de négocier avec l'Iran, la Chine continue de négocier, les Européens, les Russes. Donc, si vous voulez, à part Israël qui n'est pas parti à la négociation et qui dit ne signez rien, ne signez rien, on a l'impression qu'il pourrait y avoir un accord. Ce serait une catastrophe pour Israël parce que l'Iran resterait un pays du seuil et recevrait du coup beaucoup de capacités financières pour redresser son économie. Or, ce qui est rassurant du point de vue d'Israël ici, c'est bon, ils sont un pays du seuil, mais ils sont très touchés, très affectés par économiquement, donc moins de moyens pour soutenir tous leurs alliés du nord d'Israël, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Hezbollah, et donc surtout pas d'accord dans l'esprit israélien, et donc ils se battent diplomatiquement pour cela. Reste la grande question de la Chine. La Chine, ben, ça va toujours bien. Les Chinois viennent, il y a beaucoup de délégations, ils montrent toujours une sympathie à la fois pour Israël et pour le peuple juif. Il y a beaucoup d'articles dans la presse chinoise. Donc, si vous voulez, je pense que les Chinois ont toujours dans l'esprit que Israël est un petit grand pays qui cherche à avoir son autonomie stratégique, y compris par rapport aux États-Unis. Cherche à avoir des relations plus égalitaires avec les États-Unis. Et donc, la Chine va chercher à encourager Israël à être le plus indépendant possible, au fond. C'est la même chose pour l'Europe. L'espoir des Chinois, c'est que les Européens écoutent Macron. C'est pas le cas. C'est pas le cas, mais Israël, lui, essaie de développer cette autonomie stratégique parce qu'elle est vitale pour la survie d'Israël. Donc voilà, ce bilan, ce petit tour d'horizon qu'on a fait ensemble montre qu'Israël a maintenu cette bonne position diplomatique mondiale que Bibi, qui est aujourd'hui honni, mais qui en a été l'artisan, et on lui reconnaîtra ça dans l'histoire. Donc voilà une situation qui est sur le plan diplomatique mondial plutôt bonne.
Donc, Daniel, vous nous dressez un bilan relativement positif. Pardonnez-moi, par conséquent, la question peut être un petit peu ingénue, mais est-ce qu'on peut dire que tout va bien?
Non, non. Alors, tout va pas bien pour au moins trois raisons. La première, c'est qu'il reste ce débat sur la Cour suprême qui a beaucoup divisé les Israéliens. Ça continue tous les samedis. Donc, si vous voulez, cette affaire de la Cour suprême, elle a beaucoup mobilisé. Donc, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Mais il y a des négociations qui se font tous les jours. Et au fond, il y a un consensus général pour dire oui, il faut une réforme. Il faut prendre un petit peu de temps. Il faut qu'elle se fasse dans le plus grand consensus parce que dans tous les pays du monde, les réformes constitutionnelles, c'est une réforme constitutionnelle, se fait dans des majorités qualifié, c'est pas à une voix près que ça doit se décider, c'est majorité de 60%, 70%, 75%, et puis surtout bien délimiter le champ. Et aura-t-on un jour une constitution israélienne? Je crois qu'on n'est pas prêt, parce que finalement derrière cette histoire de la Cour suprême, et ça c'est le grand débat ici, c'est qu'est-ce qu'Israël? Donc si vous voulez, je pense que ça reste une question, mais qu'elle peut se régler. La question palestinienne, elle est plus lourde parce que cette intifada à bas bruit, elle n'est pas liée en fait à ce que fait Israël. C'est vraiment la succession de Mahmoud Abbas qui est en préparation. Donc vous avez toutes les grandes factions palestiniennes qui sont en concurrence, le Hamas, le djihad islamiste, l'autorité palestinienne, le Hezbollah, tout ça, sont alimentés en plus par l'Iran. Tout ça cause beaucoup de soucis de sécurité ici. La seule chose qu'on peut dire et qui est rassurante, c'est que les Palestiniens, à chaque fois qu'ils portent un coup, ces coups sont pas si nombreux que ça. C'est d'ailleurs pour ça que à chaque fois, ça devient une grande nouvelle. Et la riposte est tellement ferme et immédiate et efficace que je pense que les Palestiniens maintenant font très attention à ce qu'ils font. Donc, si vous voulez, sur des plans-là, on peut dire qu'on est rassuré. Il reste la troisième question, c'est que Israël fait partie du monde et que le monde, il est entré dans une crise économique qu'on voit bien un peu partout dans le monde, et c'est celle-là qui est pas rassurante.
Alors comment on peut conclure, Daniel? Est-ce qu'on peut parler de conclusion temporaire pour Israël?
Oui, on peut dire que cette ambiguïté israélienne, c'est un, cette capacité à d'abord s'occuper de soi-même, mais tous les pays sont dans ce cas-là. Hein, tous les pays, en France, on ne parle que la retraite encore aujourd'hui, alors qu'elle est derrière nous. Donc tout ça est un peu normal. Israël, c'est un pays qui quand même s'est beaucoup normalisé. Il faut pas en faire un État trop d'exception. Nous sommes tous des gens tout à fait normaux. Et donc, on est à la fois capable de s'occuper de nos problèmes intérieurs et de regarder le monde tout autour de nous. Ce monde, il est chaotique, il est dangereux, et ça, Israël, comme tous les pays du monde, subit les conséquences de tout ça. Et je crois qu'Israël fait partie de ce qu'on appelle les pays tiers, d'une certaine manière, qui sont, évidemment, ils sont dans un camp, Israël, dans le camp des démocraties, mais au fond, la volonté de beaucoup de pays, comme l'Inde, par exemple, qui est aussi dans le camp des démocraties, ou beaucoup de pays d'Asie, comme Singapour et autres, sont à la fois dans le camp des démocraties, mais au fond disent ce choc des grandes puissances entre l'Occident et la Chine, surtout, c'est inutile, c'est destructeur, ça n'apporte rien, et ça va détruire à la fois la prospérité et la paix dont on a bénéficié si longtemps. Donc Israël fait partie des pays qui ont intérêt à ce que ça cesse le plus vite possible. Et alors, tout seul, Israël peut rien faire, mais avec l'Europe, mais avec des pays comme l'Asie, des pays avec l'Inde, avec lesquels Israël a de très très bons rapports partout. et en amélioration, je pense qu'il peut se développer une sorte des camps des modérateurs, vous voyez, des camps des médiateurs. Et Israël en fera partie et a beaucoup de capacités là-dedans. Alors c'est pas pour demain, malheureusement, parce que l'heure est aux opérations militaires, l'heure est à la focalisation sur l'Ukraine, l'heure est à la parce que c'est la campagne électorale américaine. Les Américains vont s'en prendre encore à la Chine, au moins verbalement, et donc la Chine répliquera verbalement. Donc on aura une escalade verbale qui va donner l'impression qu'il y aura peut-être la guerre à Taïwan alors qu'elle n'aura pas lieu. Vous voyez, voilà un petit peu les semaines qui nous guettent et qui donneront de l'aliment à nos prochaines conversations.
Évidemment. Merci beaucoup, Daniel Habert, pour vos éclairages. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
Au revoir.